Tribune PSG sur France Bleu. Bruno Salomon.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune PSG. Il y a des saisons comme ça où tu penses que tu as touché le fond le 6 mars et puis le 27 avril, tu continues à couler un petit peu plus. En 51 jours, l'équipe du Paris Saint-Germain, ses joueurs, son entraîneur, son président et ses dirigeants ont réussi à mettre la saison en l'air du travail de grands professionnels. Bravo à tous, un titre de champion de France et puis plus rien. Samedi, Paris a parfaitement résumé sa saison, brillant pendant plus de 35 minutes et ensuite a réussi à se saborder tout seul et perdre la Coupe de France face au pire loser du foot français, Rennes, 48 ans plus tard, qui remporte et qui mérite finalement cette Coupe de France. Il faut quand même le souligner. Nous sommes en train sûrement de vivre peut-être la pire saison sous l'ère QSI. On va en parler dans cette émission. Le club coule gentiment. Seul Thomas Tuchel et Neymar s'expriment. Sinon, tout le monde se planque pour parler des moments un petit peu compliqués de cette saison au PSG. On retrouve dans cette émission aujourd'hui, j'ai pas mal d'absents, mais j'ai plein de bons remplaçants. Alors, il y a la structure solide, le gars sûr, il est là tout le temps, c'est tonton Steph, à part quand il part à New York comme ça, tranquille, ouais, bon, voilà,
pas souvent, East Coast. Hein, voilà. Je suis là.
Salut tonton.
Ça va?
Ça va très très
Salut
bien.
Bruno, bonjour à toutes et à tous.
Ici, c'est France Bleu Paris, tous les matins, le billet d'humeur, et il va y en avoir quelques-uns de salés des billets d'humeur avec tonton Steph à 8h10 et en podcast. Aujourd'hui, je salue Joss, je salue Émilie qui ne peuvent pas être avec nous. Alors on a une bonne équipe de remplaçants et on commence avec un habitué, Nicolas Batman, responsable du site parisfan.fr. Salut Nico.
Ça va?
Ça va, tu viens chaque fois que ça va pas.
Exactement.
C'est super. C'est
moi, les bonnes nouvelles, j'ai pas le droit, c'est que les mauvaises soirées. Voilà,
c'est ça. C'est comme ça. Promis, le jour où il y a une grosse vedette du PSG qui signe, tu viens en émission. Voilà, va falloir que tu viennes. Il est avec nous, Xavier Chevalier du site virage.paris, le compte Twitter Virage Paris sur Twitter et sur Facebook aussi, à découvrir absolument. Salut Xavier.
Bonsoir. Merci.
Bonsoir.
Je tiens à préciser quelque chose. Tu parles de bande remplaçant ce soir. J'espère qu'on est meilleur que ceux du PSG en ce moment.
Quand même. Ah, ça, j'en suis persuadé parce qu'effectivement, en ce moment, les remplaçants, c'est pas forcément ceux qui gagnent du côté du PSG. En tout cas, bienvenue, Xavier. Et donc, à découvrir absolument le site Virage Paris. C'est un peu le site qui se partage sous le. Sous le manteau, ouais, comme ça, tu vois, parce qu'il y a un seul, il peut y avoir un article par semaine, mais c'est des articles très, voilà, fournis, il faut absolument découvrir ça. Et puis avec nous, aujourd'hui, un garçon que, ça fait un moment, voilà, qu'on se dit, il va falloir le faire, ça fait très longtemps même, il est fidèle à Tribune PSG, c'est Xavier Coulon, spécialiste des tribunes pour le site Histoire du PSG. Salut Xavier.
Salut Bruno, merci de l'invitation et, j'ai mis le maillot de circonstance, on est revenu en l'an 2000.
Bah oui, c'est ça, effectivement.
Et comme tu parles de remplaçant, j'espère que tu ne me prends pas pour Choupo-Moting.
Non, vous n'avez pas le physique de Choupo. Il y a non, peut-être un qui est un peu gras. Allez, 17h36 dans Tribune.
Sur la tête,
on y va, n'hésitez pas à partager l'émission Tribune PSG. On va juste se faire mal pendant 1 minute 30, à tout de suite.
C'est parti pour ce corner. Derrière, on va mettre pour aller
en tirer. Extraordinaire.
Quel but.
C'est pas lui qu'on attendait sur cette frappe, mais quelle frappe du Brésilien! Le bijou de Dani Alves, la reprise de volée du pied droit, sans contrôle, sur la droite de Thomas Koubek.
Et sur pied droit pour Kylian Mbappé.
Oh super,
Di Maria,
oh super.
Di Maria, le la contre avec Koubek.
Oh, oh c'est magnifique. Oh,
qui signe son retour 3 mois après avec ce but du 2-0. Quel but encore du Paris Saint-Germain. Ça va beaucoup trop vite pour le Stade Rennais.
Attention,
le but. La réduction de Kimpembe. De Kimpembe qui se jette et qui dévie dans son propre but.
Corner. Clément Grenier, c'est rentrant, c'est parti pour Clément Grenier.
Allez, et voilà. Et bien c'est bien fait. C'est bien fait pour le Paris Saint-Germain qui fait n'importe quoi depuis le retour des vestiaires. Et l'égalisation de... Alors je sais pas qui c'est, on va voir ça au ralenti.
On l'a dit, hein.
Mais c'est bien fait pour ce PSG qui est ridicule.
Allez, Nkunku. C'est parti, pied droit pour Christopher Nkunku, la frappe et c'est au-dessus.
Et Rennes remporte la Coupe de France 2019 face au Paris Saint-Germain.
Voilà, en tout cas, 20h minuit 5, tu y étais, ton tour avec
ouais,
la bande.
J'étais d'un côté Thomas, de l'autre côté Rico.
Rico qui était...
qui montait en puissance.
Ouais, Rico qui était
là,
pas
il
bien.
Était, il était prêt à descendre sur la pelouse, à aller expliquer à Monsieur Buquet ce qu'il fallait faire.
L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, consultant de France Bleu Paris, Rico Rabé-Sandratana, que l'on embrasse et qui était très énervé. D'ailleurs, Thomas Séchier, que vous venez d'entendre, qui a commenté ce match, est venu en disant « J'avais jamais vu Rico comme ça. » Il était, je lui ai dit « Mais oui, mais il est ancien capitaine et il est comme tous les supporters. Il a mal à son Paris Saint-Germain, parce que, on va être très clair, samedi, on a frôlé le ridicule. Alors, on avait déjà le gros ridicule contre Manchester, on en a remis une deuxième face à Manchester.
Mais on l'a plus frôlé, on est en plein dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment une mascarade. Et il était dit
tu que. Tu mets 2-0. Hein.
Mais oui, il était dit que les supporters ou tous ceux qui aiment le PSG boiraient le calice jusqu'à la lie. Donc, on pensait, comme tu l'as dit très justement au début, qu'on avait touché le fond. Eh ben non, il y a toujours plus, il y a toujours mieux. On ne sait pas quel poil. Si la prochaine étape, c'est de se faire sortir en 32e de finale par un club de ex-CFA 2, un National 3 ou une division d'honneur, ils en sont tout à fait capables. Maintenant, je le sais.
Xavier, je t'entendais. En écoutant le résumé, tu étais furibard. Tu disais 2-0, 21e minute de jeu. Xavier, de Virage Paris.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? C'est juste bis repetita, tris repetita. Et à ce niveau-là, c'est plus un accident, comme dirait un certain trader.
Ouais, mais au niveau national, allemand. Pas trop. Parce qu'au niveau national, justement, c'est là où ils n'étaient pas trop ridicules en
non.
général.
Là, mais oui, le problème, c'est qu'on a été ridicules en Europe, mais maintenant, on est ridicules chez nous.
Voilà, c'est ça.
Et ça, c'est nouveau. Vraiment ridicule.
C'est ce que je voulais te dire.
Donc là, pour moi, c'est vraiment c'est très grave.
C'est dur d'être supporter du PSG en ce moment. Parce que là, franchement...
C'était pire avant.
Je suis pas si sûr. Parce que moi qui les suis depuis 1970, en fait, moi, quand les saisons commençaient, j'étais content quand le PSG finissait 13e, 12e. Finalement, on avait échappé à la relégation. C'était bien. On se faisait plaisir. Il y avait 3-4 bons matchs dans l'année. On y allait. Il y avait Saint-Etienne, il y avait Reims. Et ça se passait très bien. Mais là... On nous a tellement vendu le rêvons plus grand que moi aussi je me suis fait avoir et je me suis mis à rêver plus grand. Et en fait, faut rêver beaucoup plus petit parce qu'on peut pas rêver plus grand avec cette équipe, avec les gens qui sont en place aujourd'hui. Faut arrêter de faire croire aux gens, aux supporters, des gens qui payent leur place, souvent cher, qui vont assister à une saison qui va mener à la Ligue des Champions. Arrêtons.
Eh ben, il y en a autour de cette table, des supporters, et aussi sur les internets, je vais aller voir ça, sur les réseaux sociaux, toutes vos réactions. Nicolas, puis après Xavier. Nicolas.
Moi, pour revenir sur ce qu'on a dit juste avant, il y a une époque, je me rappelle, où avec mon père, on fêtait un match nul contre Monaco, et c'était des saisons compliquées, mais c'était pas... Aujourd'hui, c'est autre chose, c'est une autre tristesse, parce que comme l'a bien dit Stéphane Bidon, on y croit, on a des beaux joueurs. Sur le papier, il y a vraiment.
Non, mais maintenant, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'ils sont tous très bons. Mais... c'est pas le problème des joueurs. C'est le problème du club. Et que tous ces joueurs ont réussi déjà et vont réussir quand ils quitteront le Paris Saint-Germain.
Alors, on a Ben Arfa qui a fêté ça m'a fait mal.
Neymar, faut arrêter. Neymar, c'est un top joueur. Il a réussi avec Barcelone. Il a pas tout perdu en venant ici. Et pourtant, il est plus capable là, mais parce que le contexte a changé. Et tous les autres, c'est pareil. Aurier et Lucas Moura sont en passe de gagner la Ligue des Champions. On les entend plus là-bas et c'est une réussite totale.
Non, ils sont pas titulaires indiscutables. Oui.
Mais ils sont, ils mouftent pas et ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions.
Je trouve ça pénible en ce moment, c'est qu'on voit Lucas du coup et Aurier qui vont en demi-finale. Là, il y a Ben Arfa qui gagne la Coupe de France contre nous. Donc c'est que des anciens qui réussissent un peu mieux que Paris. Et franchement, ça devient agaçant.
Ouais, on peut parler de Xavier, aussi.
On va se poser la première question dans cette émission. Est-ce que l'on est en train de vivre la pire saison sous l'ère QSI?
J'ai vu l'autre fois que QSI. J'ai vu l'autre fois que t'étais pas d'accord. Toi, tu parlais de la saison 2011, hein, il me semble.
Oui, pour moi, la première saison était pas mal.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'était le commencement. Normalement, tu dois progresser. T'as l'impression que cette saison, alors de progresser, Paris a régressé. Et moi, c'est surtout le côté mental qui m'étonne chez eux. Et tout à l'heure, on reviendra peut-être sur la finale, mais tu mènes 2-0. En Coupe d'Europe, qu'ils aient des problèmes mentaux, ça peut arriver.
Non, on avait,
ça devrait pas, mais au plan national, t'es pas habitué. Là, tu mènes 2-0, Kimpembe marque contre son camp et t'as l'impression que tout le monde recommence à avoir peur. Et c'est vrai, moi, c'est ce que j'ai ce week-end après le match. Dans les années 90, souvent, on critiquait un peu le PSG, ils étaient moqués, alors qu'ils faisaient des sacrés parcours en Coupe d'Europe. Et il y avait un championnat plus relevé au niveau de la confrontation. Mais il y avait du talent, déjà. Et au niveau de l'état d'esprit et de la mentalité, c'était énorme. C'est ça qui manque. Moi, je pense que la mentalité, l'état d'esprit, c'est ce qui manque actuellement le plus.
Mais en fait, à tous les étages. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux retrouver. Je veux retrouver. Tant pis, je vais passer pour un ringard pour ce que vous voulez. Je veux des Vincent Guérin. Je veux des Paul Le Guen. Je veux des Daniel Bravo, des José Cobos et des Laurent Fournier. Parce que c'est avec des mecs comme ça, entourés de Rai, de Valdo, de Wea, de Ginola, que tu vas en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est pas avec les 11 starlets ou les 15 starlets là qui sont là, les pompes afriques, les paillettes, le truc, et finalement... Mais c'est la vérité, il faut que quelqu'un ose le dire. On est là à regarder, à dire, oh non, nos petits chouchous, mais non, stop. Stop, ceux-là, non, ils n'en sont pas capables.
Il y a très peu de supporters, enfin, un petit peu plus ça, depuis samedi soir. Mais quand tu es critique un petit peu envers les joueurs ou les dirigeants du club, tout de suite on dit « Ouais, toi t'es un anti-parisien ou t'es un mauvais supporter, t'es un politique. »
On va pas me la raconter, il n'y a pas un mec.
Un bon supporter se doit d'être objectif et de voir les qualités de son club et les défauts, sinon tu n'avances pas.
Est-ce que on revient sur notre base de départ? On va revenir, vous inquiétez pas, parce qu'on va. Mais est-ce qu'on est en train de vivre moment de RQSI? On écoute Xavier d'abord et après toi, tonton Xavier Chevalier.
Non, mais indéniablement, c'est la pire saison à tous les points de vue. Comme tu disais, Xavier, la première saison, c'est l'apprentissage à tous les niveaux, hein, que ça soit structurel ou sportif. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus vivré sur les buts de Javier Pastore ou de joueurs comme ceux-là, avec une équipe
à Barcelone.
Enfin, voilà, il s'est passé des choses, magiques qui ne se passent plus. Et il y a vraiment quelque chose qui est cassé, je pense, déjà entre les supporters et le club. Il y a une vraie volonté de renouveau. Et je crains malheureusement que ce renouveau ne se produise pas cette saison prochaine.
Alors de loin, de très loin, la pire saison, évidemment. Évidemment, mais même peut-être de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce vous allez me parler, quand on s'est sauvé à Sochaux, d'accord. Il y a trois cagades historiques avec l'effectif qu'on a. On met les choses en perspective. Les budgets sont pas les mêmes. Tu vas peut-être me parler de 76-77. Ok, moi je te parle de 2018-2019 avec Mbappé. Avec Neymar, avec Cavani, avec Di Maria, avec Draxler. On va pas tous les faire. Tu te fais éliminer de la Coupe de la Ligue, mais de la pire des façons. Bon, par Guingamp,
au Parc.
Dernier de Ligue 1 et au Parc des Princes.
Moi, en pénalty.
Ok, mais tu peux quand même tomber un jour en demi-finale à Lyon, à Marseille, même soyons fous, ou à Saint-Etienne.
Non, là, tu perds à domicile. Tu peux dire c'est un accident.
L'élimination de Manchester, elle est puissance 1000 de ce qu'on a vécu face à Barcelone.
Tout à fait d'accord.
Parce que Barcelone, ok, il y avait quand même Messi, Suarez, Neymar ce soir-là, ok.
Mais c'était à Barcelone.
Et c'était à Barcelone, et Paris n'avait pas été gagné à l'extérieur. L'équipe d'en face n'était pas privée de Pogba comme ils l'ont été, qui était soi-disant le mec le plus dangereux.
Et avec des gamins à Manchester.
Faut pas perdre 3-1. Ils perdent 3-1. Un cadeau de Kerrer. Un cadeau de Buffon. Tiens, Buffon qui était venu, je pense, pour faire franchir un cap à Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est lui qui t'envoie directement au fond du trou. Et on finit avec le must. Donc avec Rennes. La petite cerise sur le gâteau. Voilà. Finale de la Coupe de France. Rennes qui n'aligne plus une victoire depuis un temps imbattable. En face, bien sûr, Ben Arfa et l'étang, histoire de rajouter un petit peu au décor.
Ça, c'est la DNVG.
Armand, c'était la...
Tu mènes 2-0 au bout de 21 minutes. Magnifique, deux buts sublimes. Vraiment sublimes. Le but de Daniel Alves me rappelle celui de Zidane en finale contre Leverkusen. Une reprise parfaite, le geste génial. Le lob de Neymar, génial. Et là, de nouveau, Kimpembe qui... Alors, une fois, il met la main à la 90e plus 2 face à Manchester. Là, eh bien, il marque un but contre son camp. Il n'était pas obligé. Et la suite, vous connaissez. Sûr. Ils sont incapables. Ah, et puis, un coaching complètement foireux de Tourelle. Il a Cavani. Faut qu'on m'explique quelque chose. Ça, il me met sur la feuille de match. Oui, mais ça fait partie du...
Ah, non, mais juste, c'est parce qu'il y a plein de réactions. Et j'essaie de remplacer Émilie. Non, mais c'est ça le problème. Donc là, il y a Baptiste déjà qui nous dit, hop, 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 tonton, il est parti. Il est chaud bouillant. Derrière, je suis ravi de le retrouver parce qu'il nous avait manqué pendant un mois notre plus gros râleur de la Terre. C'est Globule. Globule.
Ah ouais, Globule.
Voilà, il avait disparu d'Internet pendant des Internet. Il est remonté comme une pendule aussi. Il nous dit, cette saison, on n'a pas vécu une seule émotion positive depuis le mois de décembre. Non, mais depuis le mois de décembre.
Ah, bah, le match aller à Manchester.
Ah, oui, c'est
ça. Ça fait une émotion positive. Voilà. Allez.
T'as raison. Allez, ça, c'est pas mal. En tout cas, il y a Frédéric qui nous dit le rouge et le noir, c'est pour Stendhal, mais c'est pas pour les, c'est rouge pas pour noir, les, bien, pour oui. nous, en tout cas. C'est pas pour nous et c'est pas pour le, pour le Paris Saint-Germain, etc., etc. En tout cas, tout le monde réagit, bien sûr. Je vous la pose à vous aussi, hein, les amis. Est-ce que c'est la pire saison? Il y a Joannie qui nous dit oui, mais le plus inquiétant, c'est qu'on, on va vivre la même la saison prochaine. Et que ça pourrait être la même chose. Oh, Bertrand, mais il a pas sonné. Ça c'est bien. J'aime quand ça se passe comme ça. Salut, Bertrand Métayer du Parisien.
Très
désordonné. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. J'adore. Alors tu vas te décaler juste un tout petit peu, s'il te plaît. Voilà, c'est parfait. Pour que tu sois là. Bonjour, Bertrand. Comment ça va?
Parfaitement bien.
Est-ce qu'on est en train de vivre la pire saison du PSG sous l'ère QSI? Tiens, allez comme ça.
Ouais, on en est pas loin, je pense quand même, parce que.
Moi, je me suis déjà exprimé. Tu peux te lâcher.
Non, parce qu'il y a eu, il y a eu des saisons aussi, un seul titre, mais c'était un peu plus en arrière dans le projet,
ouais, c'est
et puis il y avait quand même pas la même le même vestiaire, le même effectif. Et après, ce qui est très très bizarre dans cette saison, c'est que jusqu'à début mars, tout allait bien, quoi.
Ah bah oui,
vraiment,
c'est ça.
Tout allait bien.
Et 51 jours, en 51 jours depuis le 6 mars. Pim ouais, jusqu'au 27 avril, tu vois ton truc se désagréger. Non mais c'est terrible.
Oui,
c'est
vrai, parce que ça commençait à aller moins bien déjà. En décembre, ça commençait déjà à être un peu moins bien quand même. Il y a eu les premiers mois qui ont été bons, mais ça a commencé. Mais
je pense
un
qu'en
peu
fait, peut-être le tout début effectivement, c'est le mois de décembre, au moment où en fait la qualification était acquise en Ligue des Champions. Et là, on a quand même effectivement senti qu'il y avait un peu moins d'investissement.
C'était bon jusqu'au match à Belgrade.
Voilà. Et après, il y a eu un petit accro à Bordeaux. Et puis oui, l'épisode d'Oa, on peut en reparler. Parce qu'en fait, il y a une succession de petites choses.
Vous m'aviez traîné dans la boue ici, mais quel bonheur de revenir
tout de suite.
Non, mais bien sûr. Quand j'avais émis quelques doutes sur le fait de la pertinence d'aller vendre des maillots et du business alors que les autres étaient en train de s'entraîner, tout ce qui est arrivé. Enfin, bon, bref. Reprenez les émissions, je suis content.
Mais après, ce que tu disais, ce que disait Stéphane tout à l'heure là, sur le côté mental, ce qui n'est pas normal, par exemple, là, tu parlais de Kimpembe, c'est que derrière, tu n'as personne pour rattraper l'erreur. Moi, comme le match contre Manchester, quand on dit tout Buffon fait une grosse erreur, tu n'as personne pour rattraper l'erreur derrière. Moi, je me rappelle, je vais faire vieux con, dans les années 90, il y a PSG-Barça à Barcelone, le match aller, tu as Lama qui fait une boulette et qui prennent un but, ils sont menés 1-0. T'as Oya qui égalise dans la foulée, il court tout de suite pour voir Lama le prendre dans ses bras, et puis voilà, tu sentais qu'il y avait quelque chose derrière.
Il n'y a pas de cohésion.
Il n'y a pas de répondant derrière.
C'est ça qui est miracle.
En Coupe d'Europe, je veux bien, mais là, contre Rennes, où tu domines sur le plan national depuis des années, c'est étonnant qu'il y ait eu cette réaction. Quand tu mènes 2-0, tu prends un but, tu repars, et puis tu oublies tout. Mmh. Ils ont coulé.
Même cette erreur de Buffon, il fait bien sûr une erreur de main, mais il n'y a pas forcément but après. Si les défenseurs suivent la frappe, s'ils sont morts de faim, s'ils se battent vraiment pour l'équipe pour gagner, c'est possible d'aller gêner Lukaku. Après, le problème, c'est que personne.
Mais même samedi soir,
rien.
Tu peux encaisser un but contre ton camp que tu mènes 2-0, tu mènes 2-1. À 2-1, c'est encore pour toi la victoire.
Je ne sais plus si c'est de la peur ou un manque d'envie.
Non, mais il suffisait de voir.
Est-ce qu'il y a deux Xavier dans l'émission, pour ceux qui nous rejoignent, et pour Bertrand aussi, Métayer du Parisien, notre partenaire.
Sinon, appelez-vous tous Xavier.
C'est ça.
J'ai proposé.
Voilà, on a Xavier Métayer qui est avec nous.
Xavier de Paris Fan.
Voilà, Xavier Biton. Il y a un Biton Xavier dans la famille?
Non, il n'y en a pas.
D'accord. Xavier Chevalier de Virage Paris qui est avec nous.
Non, mais pour revenir sur Rennes, effectivement, au-delà du comportement des joueurs sur ce côté tête baissée, il y avait aussi ce manque de défense avéré des offensifs. C'est-à-dire que personne, à des moments, il y avait des trous absolument hallucinants. Les Rennais avançaient comme dans du beurre. Enfin, moi, j'ai halluciné. Je me dis, mais où ils sont? Il n'y a pas de pressing.
Et puis Paris a perdu une fois de plus, et une fois encore, la bataille du milieu de terrain. Oui. Avec les deux tricoteuses, la tricoteuse Verratti-Paredes, ils gagnent demi-mètre en une demi-heure.
Aussi dans les tricoteurs.
Oui, enfin tout le milieu de terrain, c'est là que ça s'est perdu. Jadis,
cette émission, c'est ça balance à Paris en fait.
Qui cassait, Non mais là, attends, on peut. Oh, je suis désolé, on peut pas là dire qu'ils ont été, bien.
Personne les défend.
On tournerait au ridicule que de pas avoir vu les choses. Il y avait un joueur qui cassait les lignes un temps au Paris Saint-Germain.
Ceux qui cassaient les jambes aussi.
Non mais alors, justement,
il est écarté lui de toute façon.
Bah oui, mais c'est encore une belle idée ça.
Oui, ça c'est une très belle idée effectivement. On en va en reparler tout à l'heure parce que justement dans la série, dans les réactions, Ben Arfa, voilà.
voilà, peut-être pas d'accord avec vous sur Adrien Rabiot.
Ah bah, on va en gros, il y a le président du fan club, là, tu peux y aller.
Ah bon, bah, je suis d'accord avec toi, mais quand je vais commenter énervé, je dirais.
Non, mais juste pour cette finale et pour revenir quelques instants sur la finale à 17h53 dans Tribune PSG, mis à part si je sauve Dagba, Neymar, Marquinhos. C'est à peu près, tu peux partir à la guerre avec ça et puis c'est tout.
Ouais, Neymar fait un bon match, hein. Moi je l'ai trouvé très bien. Il le gâche avec une patate sur un supporter à la fin. On en reparlera.
Pas une patate de fort non plus.
Non, ça va. Et l'autre a été un abruti de lui dire qu'il savait pas jouer au foot, dire à Neymar qu'il savait pas jouer au foot déjà. Mais lui aurait dû être au-dessus de ça. Mais je veux bien penser qu'avec la déception de la défaite plus le stress de 120 minutes, que effectivement tu réagisses comme ça. Mais bon, ça, on l'excuse pas, mais on le comprend. Et l'autre a été un abruti, il a eu que ce qu'il méritait.
Bertrand, Dagba, Neymar, Marquinhos, c'est les seuls qu'on peut sauver dans cette rencontre. On a eu un Areola insipide.
Voilà. Areola, jusqu'à la séance de tir au but, voilà, il sort une belle frappe de Bourigeaud à un moment. Il est pas, parce qu'il y a pas, Rennes a pas 50 occasions.
Ça c'est sûr.
Et les buts pour les éviter.
Non, là c'était.
Non, Areola, il a rien à se reprocher. Et d'ailleurs,
pas
les,
parce que
les dix premiers pénaux sont cadrés et marqués. Il y a aucun gardien qui n'arrête un pénau puisque celui
de Nkunku,
il l'arrête pas et il crasse au-dessus.
On l'a tous vu venir dans Nkunku. Je suis seul dans le stade à avoir dit non, mais j'ai dit patate au-dessus.
Quelqu'un s'est posé la question de savoir si des fois Mbappé n'avait pas été expulsé, s'il n'aurait pas fait le cinquième ou sixième
tir,
et on n'aurait pas. Et où est-elle, les couillus, les gros salaires, là, Marquinhos et Verratti?
Pendant la séance de tir au but.
Alors, on respecte à Paredes, le mec qui est soi-disant arrivé de nulle part et qui truc, lui, au moins, il a eu les coronets pour y aller.
C'est vrai,
Verratti, je ne l'ai pas vu.
Après, Verratti, il aurait fait une passe, Verratti.
Il doit enfin mettre à mal Thiago Silva et son brassard de capitaine. Nada.
Pas faux. Mais puis même Marquinhos dans le match,
il est un peu énervé, parfait. Notre tonton.
C'est vrai que c'était étonnant de voir Christopher Nkunku. Après, Christopher Nkunku reste un joueur qui est très bon sur les coups de pied arrêtés et qui est susceptible de marquer un penalty. Après.
C'est pas le plus grand fautif.
Christopher Nkunku, on va justement à 17h55. Les jeunes n'écoutent pas, selon Neymar. Et c'est ce qui a été annoncé par. D'ailleurs, c'est toi qui as posé la question à Thomas Tourel, Bertrand, aujourd'hui. Sur les jeunes, je sens qu'il y a un dossier qui se prépare dans le Parisien
parce matin que c'est sur pas, ces jeunes. C'est pas très clair parce qu'on ne sait pas de qui il parle. Est-ce que les jeunes, j'ose pas imaginer qu'ils pointent du doigt Christopher Nkunku, Stanley Nsoki ou Moussa Diaby. Donc qui reste comme jeune au Paris Saint-Germain, Preston Kimpembe, Alphonse Areola qui est un jeune gardien, Mbappé, est-ce que Mbappé
considère... C'est un problème parce que Kéhère, c'est lui qui l'a ramené en plus, donc ça devrait être un
joueur de confiance pour lui. On parle de la réaction de Neymar,
ouais,
en fait.
Neymar qui pointe du doigt.
Que Tourol, justement, il s'en plaignait aussi. C'est Neymar qui se plaint plus de ça.
Mais aujourd'hui, Thomas Tourol a dit que c'était pas la peine de laver son linge sale en public, mais qu'il comprenait.
Et qu'il y avait quand même certaines attitudes qui, là, ces derniers jours, ces dernières semaines, visiblement ne lui plaisent pas et qui vont sûrement lui permettre de faire un peu du tri pour constituer son groupe la saison prochaine.
Après, est-ce
qu'il aura les coups des franges pour choisir qui va partir? Voilà, parce que on l'a vu avec Adrien Rabiot, les joueurs ont aussi leur mot à dire et les joueurs au Paris Saint-Germain n'ont pas envie de partir.
Xavier Coulon de Histoire du PSG.
Il y a justement ce problème-là aussi. Là, tu parles du coach. Le coach, entre les 6 premiers mois qu'il a fait au PSG, où il aimait tout le monde, il était cool en conférence de presse. Là, tu as l'impression, depuis quelques semaines, quelques mois, il a littéralement changé. Alors, est-ce que c'est dans le vestiaire que ça se passe mal? Est-ce que, comme tu disais, il n'a pas les coups des franges pour faire ce qu'il veut? Mais
Il est en train de sortir la sulfateuse.
À chaque fois, il sort la sulfateuse en conférence de presse. C'est étonnant, quoi, qu'il ait il y a eu du changement pour que, ou alors il a tâté le terrain au début, puis maintenant il s'affirme un peu plus.
Après, c'était un peu comme ça qu'on nous le présentait vu d'Allemagne quand il est arrivé. En disant, attention, c'est quelqu'un qui est un peu jusque-boutiste et qui parfois sent la sulfateuse et voilà, c'est un peu jamais de sa faute, c'est la faute des arbitres, c'est la faute de.
C'est son vrai visage, peut-être plus là qu'en
premier. On parle de Rudy Garcia, c'est la faute des arbitres et on n'a pas eu de chance.
Moi, je trouve que ce sera très bizarre aujourd'hui que Tourelle, en conférence de presse, vienne sourire et rigoler avec les journalistes. Je pense que ça fait des mois
Il a des problèmes.
Il attaque sa direction des fois, toi, comme l'autre.
Mais j'espère bien. Il a pas rigolé aujourd'hui. Hein.
Non, justement.
Il était marqué aujourd'hui.
C'est clair. Aujourd'hui, je vais dire, son visage était marqué. Il a encaissé. Tu sentais qu'il était sur les nerfs, qu'il avait. J'ai pas vu mes joueurs. Donc ça veut dire que la journée était de repos pour le dimanche. Qu'il a pas vu ses dirigeants. Franchement, là, tu sentais que. Il était en mode.
Est-ce qu'il n'est pas en train de prendre la mesure de ce qu'est l'immense bazar qu'est le PSG depuis 3 ans?
Bien sûr.
Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il a réussi à mettre en place des choses. Il y a les joueurs qui l'ont écouté. Il a eu le soutien de certains leaders importants comme Mbappé, Neymar, parce que Mbappé, c'est un leader, mine de rien. Champion du monde. Mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de se rendre compte des lacunes gigantesques dont on parlait au début, de management, sans doute. D'univers global, d'ambiance, et que là, vraiment, maintenant, il sait ce qu'il attend au mois de septembre. En tout cas,
surtout, ça met en lumière la thèse de l'accident qu'il a avancée après Manchester, qui était quand même pas très crédible. Là, elle vole complètement en éclats, parce que c'est une succession de contre-performances et d'un problème mental quand même excessivement ancré dans ce groupe, et sur lequel il n'a visiblement aucun levier pour inverser cette tendance. C'est ça qui est un petit peu inquiétant.
Ce qui est important quand même, c'est que son leader technique, comme vous l'avez souligné, Tonton, vient dire au grand jour, il y a quand même des jeunes qui ont un teston comme ça, qui n'écoutent rien. Mais alors, juste, je racontais la petite anecdote tout à l'heure à cette audience, quand nous étions pas encore à l'antenne. Il y a 10 ans, Michael Landreau me disait la même chose pour les Sankaré, Sacco et toute la clique qui prenait le pouvoir et à qui Paul Le Guen, on était 17e ou 18e du classement, il y a pas de problème, c'était pas la même vie, mais les jeunes étaient déjà pour certains ingérables, n'écoutaient strictement rien de ce que leur disait le coach, les anciens, et ils n'écoutaient personne.
Ils n'étaient pas tous super talentueux en plus.
Ah ça on est d'accord.
Non, mais toutes les grandes équipes ont intégré de tout temps des jeunes joueurs, mais qui rentraient dans un collectif qui faisait qu'ils étaient à l'écoute des anciens. Le Real Madrid, son histoire, c'est ça en gros. Hein. Ça a été à chaque fois des stars, mais des joueurs venus du cru et qui se sont intégrés, qui sont devenus eux-mêmes des stars et qui ont après chapeauté d'autres et ainsi de suite. Au Paris Saint-Germain, je vois pas pourquoi ce serait pas réalisable. Pourquoi les jeunes pourraient pas écouter un Neymar ou un Cavani ou un Di Maria et en faire qu'à leur tête.
Xavier.
La conclusion de ce que vient de dire Stéphane, ce que je voulais dire, mais il y a aussi cette. Est-ce que c'est pas une façon aussi de se dédouaner de la part d'un Neymar de dire les jeunes n'écoutent pas, parce que finalement c'est aussi sa responsabilité en tant que leader. C'est pas qu'à Tourelle de faire boulot
là sur le terrain face à Rennes. Moi, je trouve.
Non, mais dans le discours avec les jeunes.
D'accord.
Si tu es un vrai leader, et bien en plus, il était quand même capitaine de la Seleção. Ça veut pas dire n'importe quoi. D'ailleurs, moi, je suis assez partisan qu'ils prennent le brassard. Mais en tout cas, je pense qu'il doit avoir aussi un discours vis-à-vis de ces gamins qui, visiblement, n'écoutent pas.
Bah, après, sur le fait se dédouaner, s'ils n'écoutent pas... je pense pour revenir un peu sur Tourelle et cette remarque, c'est que petit à petit, il se rend compte qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire avec certains joueurs, que vraiment ce groupe ne suit pas. Et que là, il en est au point où ça l'agace beaucoup. En plus, il a les soucis avec sa direction. Il l'a répété plusieurs fois, on l'a privé de Rabiot, comme ça. Et j'espère que cet été, il va avoir, et je suis même pas sûr que lui en soit sûr, mais qu'il puisse enfin faire ce qu'il veut, enlever les joueurs, comme il a dit aujourd'hui, il a dit, il y a des joueurs qui aiment gagner, mais il n'y a pas tous qui détestent perdre, et il veut plus de joueurs qui détestent perdre. Et je pense que là, il y avait un peu des jeunes qui étaient visés, des joueurs qui veulent bien jouer pour gagner tout, mais quand il faut se battre, quand il faut y aller, il y a moins de
monde. Il n'y a pas que des jeunes, hein. Julian Draxler, il n'est pas jeune, il est international allemand, il a
25.
Non, mais c'est ça, il est pas. C'est ce que disait Xavier, il est pas très vieux.
C'est déjà
un CV. Et effectivement, il est complètement à côté de ses pompes en ce moment. Il
peut pas être partout. Il peut pas être de nuit et de jour.
Oh là là, t'entends ? Et bam !
Mais oui, mais c'est une réalité. Faut dire les choses. Non, mais tout ça participe au fait que ce club est en train de prendre l'autre de toutes parts. Il y a le mec de tout en haut, il commande plus rien. Est-ce qu'il a commandé ? Il n'est pas là quand il faut être là. Il n'a pas le discours. Imaginez juste tout ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain depuis 3 mois à Lyon. Oh là, s'il est ce qu'il est, est-ce qu'il y aurait eu une telle chienlit ? Non, là, on parle, on sait rien.
Ouais, Jean-Michel Aulas organise bien le bazar quand même dans son club.
Il l'a organisé parce qu'il avait envie de l'organiser, là, sur Genesio. Ouais. Bon, ok, mais
après,
dans l'ensemble...
En tout cas, je te suis, Stéphane, sur ces histoires de sorties nocturnes. Les joueurs sont quand même beaucoup dehors ces dernières semaines.
Évidemment.
Beaucoup trop.
Bah voilà. Bah, bilan des opérations, ça.
Après, voilà.
Ouais, mais personne ne leur tape dessus.
Ouais, mais bien sûr.
En tout cas, Draxler ramasse un petit peu. Régis nous dit à la rue complet Draxler. Draxler trop lent pour Pascal, etc. etc.
Oui, bien sûr.
Il a même la balle du 3-0.
Hein,
bien sûr. Il a la balle du 3-0, Draxler. Ouais. Et il fait
Ah bah. Il
a... Oh là là, cette cata là. Qu'est-ce qu'il
L'action
a fait
était magnifique.
Ce
c'est normalement. Le match était fini. 3-0, 3 beaux buts.
Était fini, non. Avec ce Paris Saint-Germain, c'est jamais fini.
Après, voilà, faut oublier Draxler contre Manchester. Il fait un match exceptionnel à l'aller. Je veux dire,
il a du talent.
Et ce pauvre Draxler, donc, qui là que je trouve complètement à côté de ses pompes, a quand même dépanné à peu près partout dans cette équipe. Ouais. Et à un moment, il le paye aussi de pas être mis à son véritable poste.
En tout cas, à 18h03 dans Tribune PSG, avec nous Stéphane Bitton, Xavier Chevalier de Virage Paris. À suivre, site à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, Bertrand Métayer du Parisien, notre partenaire, qui a annoncé à 17h15, le rédacteur en chef Laurent Perrin a signé un papier qui va ravir tous les supporters du Paris Saint-Germain.
Surtout Globule.
Surtout Globule. Et une bonne partie, même autour de cette table.
Un Paris fan aussi, on est
heureux. Tu sais même pas? Non, si, de ce Antero Henrique.
Ah oui.
Et oui, qui va rester. Voilà, Antero Henrique qui va rester. Et on va en parler justement dans un petit quart d'heure.
Mais oui, mais non, mais on arrive à ça.
Xavier, tu me l'as relancé. Attends, voilà. Je vais pas te faire le tour de table. Xavier Coulon qui est avec nous du site Histoire du PSG. Et enfin.
C'est bien.
Je t'aime quand tu. Voilà, t'as senti qu'il fallait stopper. Ouais. Et Nicolas de Paris Fan qui est avec nous et qui est un habitué de l'émission. On va parler. On a parlé de Neymar. On va parler du geste de Mbappé. Alors, il y a eu deux gestes techniques, très techniques. Il y a cette semelle au niveau du genou. Et puis après, il y a la droite. Alors, petite droite, hein, comme ça, là, de Neymar contre un supporter. On dissocie les deux, mais les deux vont ramasser. Les deux vont prendre cher.
Alors, pour moi,
Mbappé,
ça n'a rien à voir.
Pétage de plomb.
Pétage de plomb. Pour avoir vu un ami médecin hier après-midi qui travaille justement dans cet univers-là, il m'a dit qu'il était à 2 mm de lui faire une double fracture.
C'est-à-dire si tu prends un tout petit peu en
sûr,
dessous,
il s'en est très. C'est Mbappé qui s'en sort très bien de pas lui avoir doublement pété la jambe, parce que c'était ça le risque. C'est complètement fou quand on revoit le geste. Mais attends, c'est n'importe quoi. Alors là, pour moi, là, tout son talent se gomme en quelques secondes. Si ce mec-là est pas capable de se canaliser, attention parce qu'on le compare à Pelé.
Attends,
j'ai pas vu tous les matchs de Pelé.
La France a adulé un mec qui a mis un coup de tête en finale de Coupe du Monde.
Moins résistant là, parce que moi, moi j'ai jamais digéré la finale de Zidane. Mais ça, c'est pas le débat.
Non, mais si, Zidane mettait a reçu énormément.
14
dans sa carrière, et c'est vrai que Mbappé, c'est déjà le troisième, c'est ça?
Je pense.
Voilà.
Il a 20 ans. S'il joue encore 15
ans,
il peut tourner à 45.
C'est un des défauts qu'il doit gommer, mais bon, il est jeune. On ne peut pas tout critiquer, mais il y a des choses à gommer.
Oui,
même dans sa communication, des fois, il est moyen dans sa communication.
Je suis d'accord avec toi, c'est incompréhensible, mais c'est au bout de 120 minutes, il sort peut-être d'un mauvais match, il y a de la frustration. C'est un geste évidemment excessivement
grave,
dangereux. Oui, grave. Mais il va être puni pour ça.
Oui, mais c'est même pas la question.
Mais
c'est qu'il
voilà, on lui demande, on trouve qu'il mûrit très vite et très bon. Il va falloir qu'il corrige ça, mais c'est vrai, il a aussi 20 ans et c'est des gestes, j'imagine quand même qu'il va être capable de réfréner.
Enfin, à Nîmes, en début de saison, il avait pas encore 20 ans. On a dit.
Savagnier, par contre, Nîmes, c'est le mec qui a failli lui péter la jambe.
Non, mais complètement. Mais évidemment. Mais il y avait un arbitre qui aurait dû. On est d'accord, mais il a quasiment pris une année de plus. Ça lui a pas beaucoup servi. On le compare aux plus grands. Les plus grands se sont pas souvent fait virer d'un terrain. Ça leur est arrivé une ou deux fois.
Oui,
une fois. Voilà. Mais. Pelé, Platini, Cruyff, Beckenbauer, Maradona, même Maradona, qui était pourtant pas un tendre, pas tant que ça. Hein.
Mbappé qui craque, Xavier, est-ce que ça surprend le supporter, le fan, de dire c'est pas possible, ils sont tous en train de péter
non,
un
non,
pareil.
J'ai pas été tellement surpris en fait, parce que ce que vous dites là, moi j'ai l'impression que ça fait partie de son caractère et je crains que ça restera toute sa vie comme ça. Je pense pas qu'il va le gommer parce que je pense qu'intrinsèquement il a cette espèce de rage. Il a beau être propre, lisse, impeccable, limite le gendre idéal pour tous les Français. Ma belle-mère adore Mbappé. Enfin, moi, j'hallucine. Mais,
salut belle-maman.
Voilà, salut, hein, Muriel. Mais je veux dire, voilà, c'est un gagneur. Je pense qu'il a, cette espèce de rage de vin qui lui fait faire ses gestes improbables.
Mais il l'avait pas trop à Monaco, j'ai l'impression, et même en équipe de France. J'ai l'impression qu'il joue plus libéré.
Est-ce qu'il y a plus de pression, Bertrand, finalement,
au PSG,
sur un garçon?
Bien sûr, il y a plus de pression.
C'est-à-dire qu'il ne sait pas la gérer ou il a du mal
pas la gérer,
à trouver le curseur.
Je trouve qu'il la gère plutôt bien par rapport à ce qui est devenu le phénomène Mbappé. Quoi. Voilà, c'est ce que disait Xavier. C'est-à-dire que la France entière le connaît. Le moindre fait et geste de Kylian Mbappé est décortiqué, analysé. La moindre virgule de ses phrases peut être... vraiment
interprété.
Et donc c'est un garçon, oui, évidemment qu'il y a beaucoup de pression, et il savait aussi qu'il était en train de passer complètement à côté de sa finale. Ouais, c'est-à-dire qu'il a tenu le PSG sur ses épaules pendant les absences de Neymar et de Cavani quand même.
Ouais, faut pas l'oublier, effectivement.
Voilà. Sauf que effectivement les deux matchs où il fallait être bon, Manchester, s'il avait fait ne serait-ce que la moitié d'un bon match, ça passait. Et puis là, c'était exactement pareil contre Rennes. Donc il passe aussi au travers des très grands rendez-vous cette saison.
Nicolas. Ouais, moi, c'est plus ça, ce qui me gêne le plus, qui pète un câble sur un match. On va dire que ça peut arriver à des joueurs. En plus, il est jeune, le match est frustrant. Mais moi, je suis en train de m'énerver alors que je suis plutôt calme en général. Mais c'est son match, toutes les occasions qu'il loupe. On dit souvent, il est génial, il a du talent. Mais il a beaucoup de progrès à faire.
Ça lui enlève rien à son talent, qui est monstrueux, évidemment.
Mais il y a une action à la fin. Parce qu'il peut être dans un mauvais soir, tous les joueurs, et un soir, on sent qu'on ne peut pas marquer. Il tire à côté, ça ne veut pas, le gardien arrête. Mais une action, il peut juste faire la passe à Cavani, c'est fini. Et il tire encore. Bon, c'est le poteau, c'est pas loin d'un but, mais... Cavani en face de lui, c'est tellement plus simple de juste faire une passe.
Ils sont nombreux à rappeler cette action sur les réseaux sociaux.
Je comprends pas.
Bien sûr, c'est ça.
Voilà, le manque de collectif pour effectivement pour Cavani qui a été.
C'est pas comme s'il était dans son dos, il l'a pas vu venir. Il le voit à ce niveau-là. Quand un grand joueur, il doit faire en sorte.
L'histoire autour de Cavani, de toute façon, alors je sais qu'il faudra qu'on nous explique. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait une mésentente hors terrain, tu vois. C'est-à-dire que. Bah, en tous les cas, il ne me donne pas l'impression de ne pas s'aimer les trois de devant là.
C'est deux générations différentes.
De ne pas s'aimer au sens pas bien du terme, où vraiment, je te la passe pas. Qu'il y ait une meilleure osmose entre Neymar et Mbappé, clairement, techniquement, tout ce que tu veux, mais qu'ils n'arrivent pas à prendre un peu sur eux et à mêler ce joueur qui a quand même 192 buts au compteur juste sous le maillot du Paris Saint-Germain. C'est ça que moi, je n'arriverai pas à comprendre. C'est qu'il y a la place pour ces trois-là.
Moi, c'est parti du match à Manchester. Hein, match contre Manchester, le retour où il ne fait pas rentrer une minute. Il fait rentrer après le pénalty dans les arrêts de jeu. Après, tu ne revois plus Cavani comme par hasard pendant quelques semaines.
Parce qu'il se blesse, en fait.
C'est la minute de trop.
Ça pose quand même beaucoup de questions. Pourquoi il ne le fait pas rentrer avant? Moi, je ne sais pas l'utilisation de Cavani. J'ai l'impression qu'il y a, comme tu dis, il y a un petit souci.
Samedi soir, puisqu'on parle de lui, je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il est sur la feuille de match. Donc, il est apte à jouer. La preuve, c'est qu'on l'a vu à un moment... On voit qu'à un moment, Paris, quand on connaît un peu le Paris Saint-Germain, on voit
que ça va mal se passer.
Ça va pas bien. On le sait, comme on savait pour Manchester, on savait pas comment ils allaient prendre ce troisième, mais on savait qu'ils allaient.
Mais est-ce qu'il avait pas peur, justement, lui-même, le coach, de prendre un but, donc il fait pas rentrer un attaquant exprès parce qu'il.
Non, mais là, si
il transmet de la peur.
T'as un mec qui a déjà la niaque, quoi qu'il arrive, et qui l'a toujours, tant qu'il lui restera un bout de jambe.
Puis lui, il aurait plus défendu que Draxler.
Il aurait plus défendu et il est capable de mettre un but dans n'importe quelle position. Un truc qui traîne pour les anciens à la garde Muller, à ce que tu veux, à la Trezeguet, il est toujours là, il va mettre avec le postérieur, avec le dos, avec le n'importe, voilà. Ce mec-là, tu le fais rentrer bien avant.
Ah bah ça, c'est sûr.
C'est ta dernière chance de pas aller en prolongation et en tous les cas de mettre un pion.
Message de Nicolas qui nous dit vous êtes bien courageux de parler de cette saison pitoyable de notre club qui aura 50 ans l'année prochaine. On est quand même mal barré. Mathieu nous dit moi je fais la grève du klaxon. Alors je pourrais expliquer. Mathieu est un de nos auditeurs fidèles qui nous écoute. En fait, il est chauffeur de bus et chaque fois que le PSG marque, alors je n'ai plus le nom de le numéro de la ligne, mais voilà, chaque fois que le PSG marque, je crois que c'est dans le Val d'Oise et ça klaxonne à chaque fois. C'est
on
plutôt.
Non,
à première main, ça se passe. Voilà. Et Elodie nous dit Cavani était comme un lion en cage et ça faisait de la peine à voir. Effectivement, on sentait qu'il avait la rage.
Ah, on sentait que l'histoire est un peu en train de se terminer.
Bah, c'est en train, de toute façon, ça va être.
Et ben, c'est ça le problème.
Son enfant va naître à Paris et après, il va pouvoir partir.
Bah oui, mais non. Enfin, il répète qu'il est bien à Paris, qu'il va aller au bout de son contrat. Et est-ce qu'il y a un club qui peut lui offrir le même salaire, c'est pas sûr. Enfin, Donc non, c'est possible qu'il ait envie de rester et ça va créer un problème parce que c'est la dernière occasion de récupérer un peu d'argent sur Edinson Cavani.
Je reviens sur Neymar. On reste. On a eu le pétage de plomb d'Mbappé. On est parti un petit peu sur Cavani, mais je reviens sur Neymar parce que Neymar, il y a eu voilà cette petite pichenette. Voilà. Alors un gros idiot. Hein, on va être très clair. Invité par les Rennais, puisque c'est un ami des joueurs du Stade Rennais, qui en fait s'est amusé à filmer et à tenter le coup. Il voulait faire le buzz, comme dirait l'autre. C'était une grosse buzz qui a filmé. Voilà. Il a insulté Verratti, il a insulté Buffon, il a tout tenté tout le monde. Et bien sûr, bah, il a tapé le bingo. Pas de chance pour lui. Neymar l'a raté parce que finalement, c'est tout ce qu'il attendait, c'est que ça prenne beaucoup plus gros. Faut-il condamner ? Il va peut-être prendre. Juste, je me retourne vers Bertrand pour le topo. Notre Neymar va passer en commission de discipline pour ce geste-là ?
Oui, la commission de discipline va être saisie. Elle aura lieu jeudi, donc on le verra. On le verra peut-être contre Nice. Parce que s'il est suspendu, ce sera après, au minimum contre Angers. Mais oui, son cas va être étudié. Il risque plusieurs matchs de suspension. Il y a l'excuse de provocation qui existe, donc qui peut être interprétée. Et Neymar peut se présenter devant la commission de discipline, lui, ou être représenté par le club. Mais son geste est condamnable parce que il y a une sorte de devoir d'exemplarité. C'est ce qu'a dit Thomas Tuchel. Il dit oui, même si c'est dur de monter dans cette tribune. C'est idiot qui est ce crétin là qui soit sur cette route, mais voilà, faut rien dire, faut même si c'est
ce que fait d'ailleurs très bien Marco Verratti pour ceux qui ont pu voir la vidéo. Verratti rattrape Kurzawa et lui dit allez.
Ouais, c'est bon. Franchement, je pense pas qu'il prendra une sanction importante. Moi, je le verrais bien prendre un match avec sursis ou quelque chose comme ça.
Je pense qu'il prendra plus quand même.
Non.
Ah
non,
bon, pour l'exemple, moi je rejoins Xavier Coulon.
Bah pour l'exemple, il y a le sursis, il est provoqué par un abruti, il lui a pas non plus démonté la tête, le match est fini.
Voilà. Il y a jurisprudence PSG, dès qu'il faut un peu sanctionner, en général, la commission.
Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de tout ça? Est-ce qu'on fait pas pitié à la France entière?
À l'échelle de l'UEFA, ça.
Même pas le sanctionner, en fait.
Ce serait dans le cadre d'un match de Coupe d'Europe, là, tu prends très cher, parce que l'UEFA les rate pas. Là, la Fédé, franchement, il s'est pas passé grand chose.
Au pire du pire.
Un match, mais vraiment
au
maximum.
Au pire, moi, je pensais à 4 matchs. Il faut qu'il soit là pour le trophée des champions.
Oui. Voilà.
Hop. Shenzhen, tout ça.
Tu te projettes déjà.
Mais c'est exactement ce que
ça existe. Tu crois quoi?
Mais il sera pas parce que de toute façon, avec la Copa América, il va gagner les vacances, non?
Ah ouais.
Bah oui. Il y aura aucun Sud-Américain. Il y aura les jeunes, ceux qui écoutent pas, pour débuter la saison. 14 matchs, 14 victoires.
Mais ils avaient fait une super tournée asiatique.
Mais bien sûr.
Souvenez-vous.
Un super début de saison.
Août, on parlait de Dagba, déjà, de Moussa Diaby.
Bien sûr.
Après, c'est ça qu'on peut lui reprocher à Neymar. Si je dois lui reprocher quelque chose, moi, ce geste-là, peut-être. Mais c'est qu'on espère quand même, depuis qu'il est arrivé, à chaque fois pour les grands rendez-vous, il a souvent été absent, qu'il soit plus présent dans la longueur de la saison.
C'est pour ça que tu peux pas lui donner le brassard de capitaine, sinon t'as pas de capitaine.
Non, mais l'année dernière, tu l'économises pour la Coupe du Monde pour qu'il revienne de blessure. Là, la Copa América, t'as envie qu'il soit beaucoup plus présent au PSG. Quoi. C'est ça qu'on aimerait pour le futur, s'il reste. Je pense qu'il va rester.
Mettre du Voltaren sur le brassard. J'aime beaucoup l'expression de Xavier de Virage Paris. Les amis, qui doit prendre la porte? Si quelqu'un doit prendre la porte, bien sûr. Est-ce que Thomas Tuchel doit prendre la porte? Xavier, lève tout de suite la main.
Je ne veux pas prendre la porte, au contraire.
Hein. Voilà.
Avec tout ce qu'on a vécu, on peut continuer à survivre. On est immortels, je pense, même nous, les supporters du PSG aujourd'hui. Non, pour moi, c'est Nasser. Mais parce que j'ai une réflexion assez basique qui est que dans n'importe quelle entreprise normalement constituée, après des échecs répétés, après des erreurs répétées, après un manquement aussi de visibilité dans la stratégie ou même dans la communication, à un moment, le propriétaire de l'entreprise ou l'actionnaire majoritaire se dit « Bon, il faut passer à l'étape 2, je change le management, je change une partie du staff, je vire le président. »
Si ta priorité est le sportif, si ta priorité est le business... Alors tu continues, tout va bien, on vend des maillots, on signe
pas
Jordan,
forcément.
On va. Mais tu peux mettre dans une autre responsabilité dans ce cas-là. Non mais je me fais un peu provocateur, mais t'as tout à fait raison. Sauf qu'aujourd'hui,
j'espère que c'est pas que ça leur priorité.
Si tu regardes exactement comment ça se passe,
c'est une priorité parce que l'un ne va pas sans l'autre.
Exactement. Ouais.
Mais c'est pas là. Mais
pourtant, ça ne suffit pas. Quand t'es supporter, t'attends plus des résultats de la
passion. Ah ouais, quand t'es actionnaire. Aujourd'hui, la marque PSG, c'est une réussite. Moi, j'aime bien dire que le Paris Saint-Germain a déjà gagné la Ligue des Champions, mais celle du marketing.
Et j'ai rien contre ce brave Nasser. Hein.
Ils vont m'en vouloir, mais c'est, je vous rappelle que tout se passe mal depuis le retour de Sébastien Bazin. Avec Olé à quoi. Tu dis ça, j'ai rien. Mais depuis le 21 février, attends, il nous arrive que des tuiles.
Il est quand même sympa, Sébastien Bazin. Il est quand même venu.
Mais oui, rien.
Il paye alors qu'il a, déjà pas encore le.
Si tu vois, Mike Hart Hall, d'ailleurs, ça m'arrange.
Pour finir, en fait, voilà, au-delà de l'aspect sportif qui est prioritaire, le sportif aujourd'hui. Mais pas que pour les supporters. Je veux dire, aujourd'hui, le sportif. Si t'as des très mauvais résultats sportif et en plus avec des manières, c'est très mauvais pour le business. Pour
c'est
les actionnaires,
effectivement. Non, tu fais venir un mec une voiture, là, tu revends.
Par rapport à Nasser, je sais pas si sa personnalité qui est en cause. En tout cas, le problème, c'est qu'il n'est plus là. Il est vraiment, il est accaparé par toutes ses fonctions et elles sont
nombreuses,
très très nombreuses. Il n'est quasiment jamais à Paris. Il passe très très peu au camp des loges. Il a pris quand même ses distances avec les joueurs. Il passe quand même beaucoup moins de temps à traîner dans le vestiaire, autour des matchs, au camp des loges, voilà. Ouais, et donc il n'est pas là. Et au club, tout le monde, alors lui, il renvoie souvent vers Antero. Mais sauf que le problème, c'est que dans ce club, tout le monde attend la validation de Nasser. Et donc, comme il n'est pas là, eh ben, il ne se passe rien. Il y a quand même des décisions qui traînent à cause de son absence. Et comme le Paris Saint-Germain doit avoir un président qui est là en permanence. C'est pas possible que...
Un grand club européen dans tout ce que tu dis. Là. Ça fait peur quand même parce que... Bah, tu comprends mieux pourquoi il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de politique sportive qui est bonne.
Arrêtez d'imaginer le Paris Saint-Germain comme un grand club européen.
C'est ce que t'attends d'eux, quoi, je veux dire, quand même.
Paris Saint-Germain avec des joueurs, avec un stade.
Le budget.
Budget et tout.
Et au niveau du palmarès.
Ah oui, c'est pas mal.
C'est quoi un grand club européen? 49 ans d'histoire. Tu vas pas te comparer au Real, au Barça, à la Juve, au Bayern.
J'allais dire 49 ans d'histoire et 13 coupes de France. Ah non, pas 13, 12.
12.
Ah, c'est vrai. On a gagné plus de coupes de France que le Bayern et le Real. Ça, c'est vrai. Ça, on est en tête. Mais sur les Ligues des Champions, les trucs qui se partagent un peu à l'échelle de tout le monde, là. Rideau. Tout le problème est là. C'est
Nasser
qu'il y a un décalage.
Nasser est au top, là, sur les réseaux sociaux et sur les cages de France Bleu Paris PSG.
Le Paris Saint-Germain n'est pas un grand club européen. Non, mais c'est pas vrai.
Non, mais il se targue et c'est son ambition.
Il se targue pour
le devenir, il faut aussi.
Il faut des résultats.
Certes, il faut des résultats, évidemment, mais il faut que l'organisation soit parfaite. Et pour l'instant, ça grince quand même à tous les étages. Ça grince au niveau sportif, ça grince dans l'organigramme, ça grince à la direction, la direction sportive. Il y a un flottement généralisé et les mercatos ratés n'en sont que un exemple le plus flagrant, en fait. C'est là où on voit que ça ne va pas. Mais
non, c'est pas d'évolution positive, c'est ça qui est dingue. Tu peux rater une année. T'as l'impression, les entraîneurs changent, par exemple, on croit que ça va aller mieux, on te fait arriver des joueurs, que ce soit en plus d'expérience, ils arrivent à Paris, ils plongent comme les autres. À un moment, tu te demandes qu'est-ce qu'il va falloir pour que vraiment le club progresse. Parce que là, il régresse cette saison, tu vois.
Justement, Thomas Tuchel est en première ligne, et depuis le 6 mars, on n'entend plus personne, Nicolas, en fait.
Oui, c'est ça qui est bizarre, c'est que. Mais du coup, on avait déjà la même chose un peu avec Laurent Blanc. Avec Emery, ouais, c'est qu'à chaque fois.
Tu parles de.
On
Laurent
arrête
Blanc,
de me couper la parole. C'est fou, ça. Hein. Il est énervé, coupe la parole à tout le monde. À chaque fois.
Vas-y, Nicolas.
Il me laisse pas parler calmement. Même si je suppose qu'on est d'accord. Mais c'est vrai que ça revient à ce qu'on disait sur Tourelle qui est énervé. Alors, c'est peut-être pas forcément que ça, mais c'est qu'il est tout seul. Antero Henrique, on sait toujours pas exactement ce qu'il fait de ses journées. Nasser, on sait surtout qu'il est pas là. Que ce soit pour fêter un titre, pour quoi que ce soit. On le voit de temps en temps après un match avec des champions qui s'est bien passé pour dire qu'on a la meilleure équipe.
À la finale. Il était content de voir Ben Arfa, visiblement. Voilà.
Mais il n'est pas toujours au Parc des Princes. Enfin, ouais. Je trouve ça inquiétant qu'on veuille devenir un grand club parce que Paris, pour moi, n'y est pas encore. Ça se verrait en Ligue des Champions. Mais pour ça, il faut un vrai président. Il faut écouter son entraîneur. Visiblement, lui, ce qu'il veut, de temps en temps, on s'en fiche un peu. Sur les deux mercatos, il demande des trucs et il les attend encore.
Si ton coach n'entend pas avec son directeur sportif aussi, c'est quand même un gros souci.
Et moi, je voudrais revenir sur
la
qualité du jeu. Parce que aujourd'hui, quand Paris fait des belles choses, il le fait grâce à des individualités. je trouve qu'on n'a pas retrouvé le jeu qu'il y avait à l'époque de Laurent Blanc, qui était un jeu qui était beaucoup plus agréable à regarder. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des beaux gestes dans les matchs du Paris Saint-Germain. T'as Neymar, t'as Mbappé qui font des trucs exceptionnels et qui font que le match devient beau. Mais quelle est la marque de fabrique aujourd'hui? Quel est l'argument que tu peux me donner pour dire que le Paris Saint-Germain joue bien hors individualité?
Moi, je trouve qu'en début de saison, il y avait un projet collectif de la part de Thomas Tourelle et qu'on avait quelque chose qui se présentait, qui était plutôt intéressant.
Qui a toujours reposé sur les épaules de Neymar, d'Mbappé,
Di Maria. Oui, sur la partie offensive, mais cette récupération très rapide au pressing, cette récupération haute, les transmissions plus rapides.
Ça vous a fait rêver, vous, ça?
Non, mais...
L'époque de Laurent Blanc, c'était agréable à regarder.
Ouais, mais c'était figé, t'avais ton 4-3-3, il y avait rien.
Ça reposait aussi sur certains joueurs d'un côté.
Il y avait quoi? Ah, un 6.
On peut dire que ça repose sur Mota et
un 6.
Exact.
Mais on peut dire que tu gagnais pas non plus la Ligue des Champions.
Non. Mais c'était agréable à regarder.
On peut dire que ça reposait sur certains joueurs.
Dépendant, beaucoup dépendant d'individualités qui sont exceptionnelles, qui fait que quand t'as vu même le match de samedi soir, quand tu vois le but de Daniel Alves ou le lob de Neymar, tu te régales, évidemment. Sauf qu'en en qualité de jeu, en fluidité, en passe et en clarté, bah c'est plus moyen déjà.
Oui, mais est-ce que tu préfères ça ou l'époque Laurent Blanc ou l'Atlético qui va en finale de la Ligue des Champions et qui est affreux à regarder, franchement?
Je suis d'accord, ça, pour le
donc c'est un vrai débat.
Si t'es affreux, tu vas en finale, je pense que les supporters parisiens seraient contents. Mais après, sur la continuité, ça sera peut-être dur.
On demande pas non, la finale, les gars,
non, mais voilà, toi, si tu vas en finale, t'es heureux déjà.
Est-ce que Thomas Tourelle est encore l'homme de la situation? Xavier, je me retourne vers toi puisque tu as lancé le débat sur Nasser qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est encore le coach qu'il faut au Paris Saint-Germain qui va se retrouver avec Carlo Ancelotti avec le palmarès le plus rikiki sous l'ère QSI, c'est-à-dire juste pour l'instant un titre de champion, alors avec sa Coupe d'Allemagne
tu peux y aller, ça changera plus, hein.
Il n'y aura que ça en fait.
Voilà. Ne me faites pas passer pour le mec qui a les réponses à tout,
hein. Non, vous avez, je vais vers toi.
Non, pour moi Tourelle, oui, il faut le maintenir. Après, est-ce qu'il aura envie de rester dans ces conditions? Je ne sais pas. La soupe est bonne à Paris, certes, mais quel est son niveau d'exigence? Je ne sais pas si c'était à l'antenne ou avant, on faisait des comparaisons avec Bielsa. Il y a ce côté un peu fou de l'entraîneur qui est capable de tout valdinguer. Et il a eu cette expérience-là en Allemagne. Moi, je pense qu'il peut continuer à condition, effectivement, qu'on lui donne quelques clés. Hein, mais
il a pour lui d'avoir les leaders, notamment Neymar, oui, qui est derrière lui.
Et Daniel Alves, Mbappé.
Qui sont...
Ça n'a pas bougé. Il n'a pas perdu, parce que... Pardon. C'est comment ça se passe, Bertrand, quand les résultats commencent à...
Oui, quand ça gagne plus, forcément.
Il l'a dit lui-même, je suis pas naïf aujourd'hui, c'est la grande phrase. Je suis pas naïf, tu sais comment ça se passe.
Il sait très bien que quand on est au Paris Saint-Germain, on est tout le temps sur la sellette. Et donc, il l'est d'autant plus aujourd'hui, après ces résultats-là. Je pense que l'idée, pour l'instant, c'est de le conserver. C'est pour ça qu'il y a eu cette prolongation, même si elle n'est pas officialisée, elle existe. Et d'essayer de construire un peu ce qui avait été tenté avec Unai Emery. C'était pas... Il avait été quand même conservé. Il avait même perdu le titre de champion.
Il a fait remontada.
Ouais. Et il avait été conservé. Je pense que ça va être un peu l'idée, avec peut-être en disant Thomas, on va essayer de tirer les enseignements. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui encore. Il a dit il faut qu'on réfléchisse, qu'on analyse pourquoi on en est arrivé là. Et tout ça, c'est le recrutement. Qui on garde? Comment on constitue un groupe qui déteste perdre
ce que je suis en train de comprendre dans tout ce qu'on est en train de se dire, les amis, et je me rebondis aussi sur ce que vous avez annoncé dans le Parisien il y a un peu plus de 45 minutes maintenant, voire une heure, sur les réseaux sociaux grâce à un article de Laurent Perrin, c'est que donc Thomas Tourelle va rester, Nasser, il est parti aussi pour rester, Enrique, selon le Parisien, reste aussi. En fait, rien ne va bouger.
C'est ça le problème. Moi, le problème, c'est que là, tu as l'impression qu'ils font une saison, on ne va pas dire fiasco, ils sont champions, mais ça ressemble à une saison quand même vraiment pas réussie. tu te dis il faudra un peu de changement côté des joueurs, peut-être côté des dirigeants. Alors l'entraîneur, je pense pas, parce que d'ailleurs c'est Thiago Silva, tu dois l'avoir la phrase l'année dernière quand Unai Emery se fait qui s'en va, il dit peut-être que le problème il vient pas de changer l'entraîneur, il vient peut-être ailleurs en disant peut-être eux les joueurs. Donc tu as envie qu'il y ait du changement au côté des joueurs, mais tu as l'impression qu'il y a pas grand-chose qui va changer déjà dans les dirigeants et sur le terrain, et ça c'est un problème. Alors si, comme je voulais te dire tout à l'heure, bon, après tu dis que ça serait bien peut-être de se débarrasser, que Cavani s'en aille s'il y a une offre, parce que voilà, s'il est vendable. Mais le problème, c'est si tu perds Cavani, moi je trouve que tu perds une âme et tu perds quelqu'un qui est beau, qui a un rapport avec les supporters très proche, et parce que
aujourd'hui c'est un symbole.
Il y a qui d'autre comme symbole dans ce club, ça va peut-être ça le souci, tu vois.
Steph, je te sens.
Je te connais,
j'ai l'oreille fine. Mais
tout ce que j'entends, je suis tout à fait d'accord.
Ça fait silence, malheureusement,
il n'y aura pas de changement, malheureusement.
Tu vois, silence,
et c'est
coule,
ça le problème. Et je pense que ce sera la dernière goutte, mais le vase a déjà débordé. Ce serait de perdre Cavani, parce qu'il est quand même, on a beau dire, il est quand même un peu l'âme de ce club. En tout cas, c'est un mec qui n'a jamais déçu et qui s'est toujours battu pour le maillot du Paris Saint-Germain. On n'a pas grand-chose à lui reprocher depuis qu'il est arrivé.
Non, ça, mais sauf qu'on sent que le projet n'est plus autour de lui. Donc, ouais, il y a un moment...
Est-ce qu'il a été un moment, une saison, il a été autour de lui. Il y a eu Ibra d'abord, et puis il a eu
la saison.
Est-ce qu'il faut des changements, Nicolas, ou est-ce qu'on reste comme ça?
Bien sûr.
Il faut forcément des changements. Le problème, c'est que j'ai le sentiment, à force de voir les choses, que les personnes ne vont pas forcément changer. Je crois qu'il y a une théorie, Enrique, s'il reste... Youpi. Nasser, bon, bah, c'est un ami de l'émir et génial pour lui, mais
l'émir, il a d'autres amis.
On peut au moins changer dans la façon de faire. Peut-être. Il y a un moment, en fait, chaque année, là, qu'on a eu, on va dire, sur les 3-4 dernières années, je me disais, vu l'échec qu'ils ont eu cette année, ils vont forcément changer des choses cet été. Là, j'ai envie de dire pareil, mais on se dit que, ouais.
Enfin, quand ils vont changer des gros trucs, oui, non, quand une année, tu prends Mbappé et Neymar, on peut pas dire que t'as
ça,
pas.
C'est... Sauf que tu t'es c'est complètement déséquilibré.
Ah ben bien sûr.
L'année
où tu fais venir les deux là, tu dois normalement, si t'es une entreprise normale, tu dois vendre Di Maria et Cavani, évidemment. Et tu mets derrière des gens un peu, enfin t'as de quoi recruter, et tu fais rentrer de l'argent qui paye au moins le transfert de.
Et après peut-être leur tactique de faire venir des vedettes, des starlettes entre guillemets. Peut-être il faut peut-être prendre de ça des starlettes, mais des joueurs un peu plus guerriers, qui ont envie de gagner, des battants.
C'est
peut-être ce qui manque.
L'équation elle est très simple. Aujourd'hui tu peux pas faire venir des joueurs au Paris Saint-Germain pour le projet sportif. C'est exactement comme les mecs qui partaient au Qatar ou en Chine pour te dire j'y vais pour le projet sportif. Quand tu viens à Paris aujourd'hui, tu viens d'abord pour l'argent.
Quand même, tu joues.
Mais qu'est-ce que t'as à vendre à un mec qui va arriver, à un mec qui
joue va quitter l'Ajax? Tu joues au Parc. Bah attends, excuse-moi, l'Ajax pour aller jouer face à Feyenoord.
Tu vends les Champs-Élysées, tu vends la Tour Eiffel.
Bah, il en profite, certains.
Tu te fais exprès l'avocat d'Idia. T'as très bien compris ce que je veux dire. Quand le mec hésite, quand il est à l'Ajax, il hésite entre le PSG et Barcelone. Il fait quel choix?
Bon, on a vu, hein.
Ah, bah, Lyon, on a bien compris.
Ah, bah, il fait quel choix?
Ah, bah, il va à Barcelone. Et là, c'est du
choix. Ça s'appelle comment, ça? Le choix sportif?
Oui, bah, c'est l'institution.
Ok, il n'aura pas la Tour Eiffel.
Enfin, il y a de l'argent aussi, hein, à Barcelone.
Et il y a pas d'argent. Ça n'a rien à voir.
Comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas comparer le PSG, le Barça, le Real. C'est sûr qu'il va choisir le Barça, toi.
Mais évidemment, mais tous les mecs, les mecs qui viennent à Paris pour l'instant, ils sont pas plus idiots que les autres. Ils voient les mêmes matchs que nous. Ils regardent le palmarès du club. Ils voient bien.
Le problème, c'est ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus, ces résultats négatifs nous empêchent de recruter des bons joueurs, clairement. Enfin, je veux dire, n'importe quel joueur qui a un standing et une ambition, il va jamais venir à Paris.
C'est le côté un peu, alors pas dire loser, tu gagnes quand même le championnat de France, tu gagnes la Coupe de la Ligue, tu gagnes la Coupe de France, mais est-ce que ça va poser des problèmes?
Et on donne du plaisir aux Rennais. Il faut pas oublier. Hein,
on distribue du plaisir.
Mais c'est sûr. C'est évident. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, effectivement, il n'y a pas que des top joueurs mondiaux. Il y a des joueurs de complément, entre guillemets. Thomas Tuchel, il voulait Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, c'est un joueur d'Everton. C'est pas...
C'est bien, on a besoin de mecs.
Sauf que, il aurait été à sa place dans cette équipe.
Mais si c'est pas clinquant, est-ce qu'ils vont le prendre, le club? Est-ce qu'il faut pas que c'est plutôt un nom que quelqu'un
Au marketing et à la vente de maillots. Tu vends combien de maillots de Gueye? Voilà,
bah, combien tout. Tu vends de maillots de Paredes aujourd'hui?
Paredes, je suis pas sûr. Ouais,
Paredes, c'est la cerise sur la cerise qui est elle-même sur la cerise.
Je pense qu'ils ont vendu plus de maillots de Choupo-Moting que de Paredes.
Bah, évidemment, évidemment.
Parce que Choupo, il a un côté.
Et là, vous parlez des mecs qu'il faut faire venir, mais moi, vous connaissez mon cheval de bataille, c'est ceux qu'il faut aussi garder. Parce qu'on en a deux là, que tout le monde voudrait bien prendre, qui s'appellent Neymar et Mbappé, qui ont vraiment envie de gagner le Ballon d'Or, qui ont beaucoup d'argent. Alors ok, c'est toujours bon à prendre tous les mois, d'en prendre plein, mais tu peux en prendre effectivement au Real ou au Barça. Et qu'à un moment, ces mecs-là, parce qu'ils vont voir que...
Ouais, mais ils vont encore faire une année, je pense.
Encore une année. Voilà,
mais il faut leur apporter
l'équipe. J'aurais préféré qu'on garde Mbappé 3, 4, 5 ans, 6 ans, qu'il nous fasse une Messi et qu'il reste pendant 10 ans et qu'il ramasse 10 titres de champion de France. Seulement, à un moment, ce mec-là, il est assez ambitieux pour dire, écoutez, sportivement, je m'y retrouve pas. Je vais peut-être gagner, allez, 5 ou 10 millions de moins par an, mais bon, ça va, je peux quand même me débrouiller. Et au moins, je vais jouer la Ligue des Champions tous les ans. Parce que c'est ça le vrai danger pour le Paris Saint-Germain.
Mais il a joué tous les ans.
À moyen terme.
Il va jouer
pour la gagner.
Pour la gagner.
Pour la gagner.
Voilà.
Oui, il a joué ça. Il va la jouer. Là, ce ne serait plus l'accident industriel. Ça dépasserait tout.
Il l'a annoncé aujourd'hui.
C'est la prochaine étape.
Il l'a annoncé, Thomas Tourelle, aujourd'hui, Bertrand. C'est que tout ce qui s'est passé là. On va pouvoir faire une belle compile et il sait sur qui il peut s'appuyer et
bah oui,
qui va pouvoir demander.
Il répète semaine après semaine, je veux des joueurs fiables, 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 fiables. C'est, et là, il a vu qui était pas fiable. C'est pas très compliqué de voir.
Mais alors qui est fiable Tiens, allons-y. Marquinhos. Qui est fiable sur une saison D'accord. Alors je me les note. Marquinhos. Non mais on va voir.
Ouais.
Donc ce qu'il faut que tu gardes, Marquinhos, Neymar. Moi, je trouve que c'est fiable.
Ouais. À part le niveau blessure, mais normalement,
il répond,
oui.
Mais après, c'est pas un niveau blessure. Je sais pas. Je propose. Allez. Mbappé, c'est fiable aussi.
Ouais.
D'accord. Ouais. Très bien.
Thiago Silva.
C'est fiable. Non, on a bien vu. Ça me dit que c'est pas lui, le
soutien. Silva, ok.
Oui.
Bernat.
Faut arrêter de dire ça.
Bernat, ok. Très bien. Colin Dagba. Oui, moi, j'ai l'impression que la Nicolas, oui, l'année prochaine,
oui,
il va
pouvoir. Oui, on a parlé comme ça de Kimpembe. On verra sur la distance.
Même Diaby, en début de saison, Dagba, il faisait beaucoup de bien, tu vois.
Ok, ouais. Bernat. Alors là, j'ai pour l'instant Marquinhos, ouais. Neymar, Mbappé, Silva, Bernat, Dagba.
Bah, t'as oublié le principal, ouais. Cavani.
Très bien, Cavani, ok, je mets Cavani.
Bah, c'est le number one dans les fiables.
Là, dans les noms que tu cites, par exemple, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, et c'est vrai, c'est Cavani, soit tu le gardes, soit tu le vends, parce que là, dans les joueurs que tu ne veux pas garder, je ne vois pas comment tu peux les vendre, ces mecs-là. Il n'y a pas grand-chose qui va...
Je suis en train de me faire souffler, là. Verratti.
Je ne suis pas d'accord.
Quoi, dans les fiables?
Je ne suis pas d'accord.
C'est le symbole même du pas fiable.
Tu rigoles, là.
C'est
il
un génie.
Hein.
Mais arrêtez.
Il progresse pas.
Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Il a perdu sa Coupe de France.
Bruno,
il n'échappe moins depuis une heure.
C'est qu'il ne progresse pas beaucoup depuis
son arrivée.
Ça fait 7 ans qu'on nous dit il est jeune, il va progresser, il va s'acheter une conduite. Arrêtez, il n'est pas fiable, il passe son temps à parler, il ne sait même pas acheter une conduite à ce niveau-là. Et c'est un génie balle au pied, je le redis, mais ça n'excuse plus tout. On ne s'en sortira pas avec des mecs comme ça, ils sont tous
fiables. Je demande. Et regardez-moi pas, je suis en train de me faire.
Fiable, non. Parce que de toute façon,
il est fiable dans une autre dimension.
Voilà. Pas fiable, Kerrer.
Si, pour les adversaires.
Kerrer, là, vous êtes en train de me dire qu'il faut faire un. Mais c'est ça qu'il faut faire.
Grand ménage,
plus fiable, Buffon.
Ouais.
Plus fiable.
Il faut changer la mentalité.
Donc, on garde Areola.
Bah oui.
D'accord, très bien.
Évidemment.
Donc, c'est un grand ménage.
Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 joueurs pour l'instant. Est-ce que quelqu'un peut m'en sortir? Paredes, vous mettez dans pas fiable pour l'instant?
Trop tôt, le trotto commence à durer.
Si il revenait à un très bon niveau
la saison prochaine, je serais quand même surpris parce que, effectivement, les premières semaines, il y avait l'excuse de la préparation physique et tout. Je trouve qu'il y a quand même des lacunes assez étonnantes.
Ce qui est fou, c'est samedi soir, vous l'avez vu.
Ballon, 1, 2, 3, 4,
oui,
5.
Oui, voilà.
Marche arrière.
Exactement.
Toucher de ballon, 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, certes, de temps en temps, il y a quelques passes assez lumineuses qui sont assez sympas. Il y a une lecture du jeu et tout, mais je trouve que ça va pas très vite. Ça va la plupart du temps vers l'arrière. Et puis, je sais pas, il me fait très très peur. Il fait des tacles complètement foufous de temps en temps.
Ah oui, c'est.
Il va finir par se faire expulser.
Fred Ramel, que je salue, et qui nous dit donc. Donc je résume, on vire nos joueurs, Antero, Nasser et Tourelle.
C'est à non, peu pas près... Tourelle.
Non, on a dit non. Voilà. Et voilà, voilà, tu vois, t'as pas écouté Frédéric, ça sera pas Tourelle.
Mais
là pour
jamais.
L'instant, voilà. j'ai pas grand monde quand même.
Meunier, on est en fiable ou...
En tout cas sur les fiables.
Ouais, moi, Meunier, je l'aurais mis dans les fiables.
Ouais. Ouais, moi, j'aurais
enfin, Meunier, sauf que le coach, il ne le met pas dans les fiables, puisqu'il ne le met jamais.
Ah, bon. Alves ouais. aussi, et on a oublié Alves.
Daniel ouais. Alves.
Enfin, il commence voilà. un petit peu.
En
hein.
fiable, Daniel Alves, du coup.
Bah ouais.
Ah, et il y a Abdelrahman qui nous dit attention.
Comme a souligné assez perfidement Thomas Tuchel sur Daniel Alves, qui disait après Manchester, il faut m'écouter, parce que moi, je sais gagner. Il a joué les deux matchs. Mmh. Et donc il a joué le match contre
il a joué contre Madrid ouais. aussi hein.
Et il a joué aussi sans jamais être
très, très bon
contre,
voilà.
ça rentre peut-être dans ce qu'il dit Neymar qu'on l'écoute pas aussi, peut-être
mais le problème de, ce que moi ce que je te dis c'est que ce qu'on dit là sur, moi je suis persuadé qu'un Marco Verratti dans un autre club il va réussir et c'est ça qui va me faire mal. C'est que j'en suis persuadé. Ça va réussir. Il a réussi, mais il a assez de talent pour s'imposer au Barça, au Real sans aucun problème. Et là-bas, bien verrouillé, avec un vrai président, un vrai directeur sportif et un vrai entraîneur.
Regarde Marco Verratti, depuis des années, on dit en équipe d'Italie, il va devenir le patron et tout. Et tu demandes aux journalistes italiens qui suivent l'équipe nationale, et ils ont peine à trouver trois très grands matchs de Marco Verratti.
Il était bien Thiago Motta à Paris, par exemple, avec un patron à côté de lui.
Donc non, Marco Verratti, c'est un peu entre les deux, quoi.
Nicolas.
Rabiot fiable ou pas? Pour de vrai. Non mais est-ce que
depuis qu'il est parti, ça va plus.
Mine de rien, finalement sur le timing, ça correspond.
Je pense quand même. Alors ça, c'est mon analyse et vous allez dire que vraiment j'en rajoute. C'est que je pense que c'était un mec qui était aimé du vestiaire
et que
beaucoup de joueurs n'ont pas compris et que quelque part ça leur a envoyé à leur visage à eux ce qui pourrait leur arriver et ce qui va peut-être arriver à d'autres. C'est que tu pars pas comme ça et que ce mec-là qui a juste voulu respecter son contrat. Peu importe après tout le reste et tous les sauts de tout ce qu'on
a. Non, mais lui, c'est parce que c'est un joueur qui a été formé au club, je pense.
Mais il n'y a pas d'histoire. C'est un mec qui allait au bout de son contrat.
Et juste pour vous rappeler, Kimpembe, s'il fait une saison, c'est une saison post-Coupe du Monde, d'accord, mais qui est son meilleur ami? Quel est son meilleur pote? Draxler et Rabiot.
Voilà. Non, mais et puis, je pense que Marquinhos, Draxler, Daniel Alves, qui ont dû dépanner match après match au milieu de terrain, ils ne devaient pas comprendre pourquoi toute la semaine à l'entraînement, ils avaient un Daniel Rabiot qui était compétitif. Ils disaient, et nous, on se crame la gueule, on n'en peut plus, mais pourquoi vous ne faites pas de jouer? La position jusqu'au boutiste du club, c'est
Thomas Tuchel. Aussi, avait pris en 10 ans.
Mais de la même façon que l'année dernière, des joueurs étaient montés au créneau pour aller dire mais Ben Arfa, pourquoi il joue pas Ben Arfa?
Mais clairement, ouais, c'est, je voulais dire,
il y a un moment,
on peut pas comparer les deux cas, mais c'est un peu ça, c'est parce que ça vient d'en haut. On a critiqué Emery pour Ben Arfa, la Tourelle, je pense que c'est pas lui.
Lucas, il a été mis au placard aussi, souvenez-vous. Et Neymar à Rennes l'année dernière, Neymar après un match, il dit mais je comprends pas pourquoi Lucas il joue pas. Lucas, lui pour le coup,
parce que dans la série Bon Garçon, autant il y a voilà. Quand
même. Et alors s'il y a bien une chose qui m'a rendu heureux,
hygiène de vie,
mais en fait cette stratégie de mettre les joueurs à l'écart, ça ne fonctionne pas. C'est le seul club qui fonctionne comme ça. Ce n'est pas possible.
Je dis il y a une seule chose qui m'a rendu un peu heureux samedi soir, c'est pour Ben Arfa.
Bon, alors moi je te le dis très franchement, il a quand même parce que
on est allé le chercher à Nice pour en faire.
Il a été payé aussi.
Il a eu une hygiène de vie déplorable, il avait 5 kilos de trop, il était pas là pour jouer au football, il s'en foutait complètement. Il y a un moment donné, ça va quoi.
Puis on lui ça dit va. On attends, lui c'est dit comme pas, c'est un petit peu sévère et définitif.
Non mais ça va.
Ouais.
Il y a un moment, enfin bon, OK.
Mais il a pas toujours eu un comportement irréprochable partout où il est passé, peut-être qu'il se remette un peu en question aussi, tu
vois. Vous voulez qu'on parle de tous les mecs ont eu des comportements pas irréprochables au Paris Saint-Germain?
C'est une nouvelle émission.
Non mais tu vois ce que je veux dire? On lui ressort 2 kilos de trop. Mais il y a des mecs qui ont fait bien pire que lui au Paris Saint-Germain qui sont là et qui vendent beaucoup de maillots avec leur nom floqué dans le dos. Alors je pense que non, c'était très bien, c'était très moral. Il a dit une seule phrase, qui est très bien, c'est que tu dois respecter l'humain.
Le philosophe.
Et j'ai peur qu'on le respecte.
Il a resté un an alors qu'on l'avait dit qu'il jouerait pas.
Le philosophe, il l'avait noté, c'était la dernière phrase.
Ne pas prendre les gens de haut, respecter l'humain. Et ça, c'est partout. C'est dans le foot.
Ah, mais on est d'accord.
C'est dans le foot.
C'est pour vous. Et même s'il y a la petite musique, pour revenir à ce qu'a dit Véronique Rabiot en disant il a instillé le poison. Alors, même si il faut tout remettre dans son contexte, parce que voilà, on sait que c'est
un peu excessif.
Ça m'a fait mal d'être d'accord, moi. Mais c'est vrai. Ils
se
sont créés un vrai problème, et à l'intérieur du vestiaire, je pense que ça n'a pas été compris. Et voilà, même Thomas Tuchel le voulait. Enfin, c'est cette succession de petites erreurs. On parlait de Doha, on parlait de l'anniversaire de Neymar. On pourrait revenir aussi dessus. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée après coup? Voilà. À l'époque, on disait non, peut-être pas. Et voilà, c'est cette succession de petites choses qui ont fait arriver à on n'est pas loin de l'accident industriel.
Voilà, la phrase pour terminer de Bertrand Métayer du Parisien. Demain matin, dans les colonnes du Parisien, Bertrand.
On va parler du Paris Saint-Germain.
Oui, qui joue à Montpellier demain, 19h, sur l'antenne de France Bleu Paris.
On y sera. On va parler un tout petit peu de Montpellier, mais effectivement, on va revenir sur Neymar, Mbappé, Antero Henrique, toute l'actualité en coulisses de ce Paris Saint-Germain.
Merci Bertrand d'être venu dans cette émission, Nicolas, de parisfan.fr. Oui. On se retrouve la prochaine fois pour une bonne nouvelle.
Allez,
pour
la prochaine fois. Longtemps, du coup.
Merci Xavier Coulon d'être venu pour cette première histoire du PSG. On salue toute la team d'histoire du PSG. Ouais.
Rémi,
effectivement. Que l'on salue, le boss. Le boss, il est là. Un petit peu Bruce Springsteen.
Exactement. Bien sûr.
Chemise à carreaux à côté de toi, tout ça. Enfin, bref.
Bien sûr.
Ton staff demain 8h10.
Ouais.
Ici c'est France Bleu Paris.
Tout à fait.
Sur quoi?
Bah la fin de saison va être longue.
Ah oui, très longue.
ça s'arrête dans le mois.
Voilà, effectivement, Virage Paris avec Xavier Chevalier, rédacteur en chef. Qu'est-ce qu'on trouve?
Alors aujourd'hui, on a un très beau papier écrit par Jean-Marc Pilorget qui nous parle de Francis Borrelli.
Et
qui a été écrit avant la finale. Qui n'a rien à voir avec nos problèmes présidentiels actuels, je tiens à le préciser. Et jeudi, on aura un très beau papier aussi sur un journaliste breton qui écrit sur sa passion du PSG.
Eh ben, à suivre.
Bretagne,
Virage
ça nous
Paris,
gagne.
C'est ça. En tout cas, Virage Paris, ils n'ont plus que ça à faire, les Bretons. Voilà. Maintenant qu'ils ont gagné une coupe, ils sont contents pour 48 ans supplémentaires. Merci à toutes et tous. Je retiens ta phrase, hein, Xavier. On donne du plaisir aux Bretons. 18h44 dans une PSG. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Partagez cette émission, n'hésitez pas un maximum. Et nous, on se dit bye bye. Xavier, tu vas juste avoir une mission où avec tonton, faites ce que vous voulez, il va falloir couper et se dire au revoir, ciao à toutes et merci à Iki qui a réalisé cette émission.
Ciao
bye bye.
Allez,
merci.
Ciao.